Chateaubriand, les aventures du dernier rabbin Serrage, avertissement. Les aventures du dernier rabbin Serrage sont écrites depuis à peu près une vingtaine d'années. Le portrait que j'ai tracé des Espagnols explique assez pourquoi cette nouvelle n'a pu être imprimée sous le gouvernement impérial. La résistance des Espagnols à Buonaparte, d'un peuple désarmé à ce conquérant qui avait vaincu les meilleurs soldats de l'Europe, excitait alors l'enthousiasme de tous les cœurs susceptibles d'être touchés par les grands dévouements et les nobles sacrifices. Les ruines de Saragosse fumaient encore, et la censure n'aurait pas permis des éloges où elle eût découvert avec raison un intérêt caché pour les victimes. La peinture des vieilles mœurs de l'Europe, les souvenirs de la gloire d'un autre temps et ceux de la cour d'un de nos plus brillants monarques n'auraient pas été plus agréables à la censure, qui d'ailleurs commençait à se repentir de m'avoir tant de fois laissé parler de l'ancienne monarchie et de la religion de nos pères. Ces morts que j'évoquais sans cesse faisaient trop penser aux vivants. On place souvent dans les tableaux quelques personnages difformes pour faire ressortir la beauté des autres. Bien dans cette nouvelle, j'ai voulu peindre trois hommes d'un caractère également élevé, mais ne sortant point de la nature et conservant avec des passions les mœurs et les préjugés même de leur pays. Le caractère de la femme est aussi dessiné dans les mêmes proportions. Il faut au moins que le monde chimérique, quand on s'y transporte, nous dédommage du monde réel. On s'apercevra facilement que cette nouvelle est l'ouvrage d'un homme qui a senti les chagrins de l'exil et dont le cœur est tout à sa patrie. C'est sur les lieux mêmes que j'ai pris, pour ainsi dire, les vues de Grenade, de l'Alhambra et de cette mosquée transformée en église qui n'est autre chose que la cathédrale de Cordoue. Ces descriptions sont donc une espèce d'addition à ce passage de l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Huitième et dernière partie. De Cadix, je me rendis à Cordoue. J'admirais la mosquée qui fait aujourd'hui la cathédrale de cette ville. Je parcourus l'ancienne bétique où les poètes avaient placé le bonheur. Je remontai jusqu'à Andaoura et je revins sur mes pas pour voir Grenade. Alhambra me parut digne d'être regardée même après les temples de la Grèce. La vallée de Grenade est délicieuse et ressemble beaucoup à celle de Sparte. On conçoit que les Maures regrettent un pareil pays. Il est souvent fait allusion dans cette nouvelle à l'histoire des Aigris et des Abincérages. Cette histoire est si connue qu'il m'a semblé superflu d'en donner un précis dans cet avertissement. La nouvelle, d'ailleurs, contient les détails suffisants pour l'intelligence du texte. Récit. Lorsque Boabdil, dernier roi de Grenade, fut obligé d'abandonner le royaume de ses pères, il s'arrêta au sommet du mont Padoul. De ce lieu élevé, on découvrait la mer où l'infortuné monarque allait s'embarquer pour l'Afrique. On apercevait aussi Grenade, la Vega et le Chénil, au bord duquel s'élevaient les terres de Ferdinand et d'Isabelle. Et à la vue de ce beau pays et des cyprès qui marquaient encore çà et là les tombeaux des musulmans, Boabdil se prit à verser les larmes. La sultane Aïssa, sa mère, qui l'accompagnait dans son exil avec les grands qui composaient jadis sa cour, lui dit « Pleure maintenant comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. » Ils descendirent de la montagne et Grenade disparut à leurs yeux pour toujours. Les Maures d'Espagne qui partagèrent le sort de leur roi se dispersèrent en Afrique. Les tribus des Aigris et des Gomels s'établirent dans le royaume de Fès dont elles tiraient leur origine. Les Vanegas et les Alabès s'arrêtèrent sur la côte depuis Oran jusqu'à Alger. Enfin, les Abincérages se fixèrent dans les environs de Tunis. Ils formèrent, à la vue des ruines de Carthage, une colonie que l'on distingue encore aujourd'hui des Maures d'Afrique par l'élégance de ses mœurs et la douceur de ses lois. Ces familles portèrent dans leur patrie nouvelle le souvenir de leur ancienne patrie. Le paradis de Grenade vivait toujours dans leur mémoire. Les mères en redisaient le nom aux enfants qui suçaient encore la mamelle. Elles les berçaient avec les romances des Aigris et des Abincérages. Tous les 5 jours, on priait dans la mosquée en se tournant vers Grenade. On invoquait Allah afin qu'il rendît à ses élus cette terre de délices. En vain, le pays des lotophages offrait aux exilés ses fruits, ses eaux, sa verdure, son brillant soleil. Loin des tours vermeilles, il n'y avait ni bruits agréables, ni fontaines, un plein pide, ni fraîche verdure, ni soleil digne d'être regardé. Si l'on montrait à quelques bannis les plaines de la Bagrada, il secouait la tête et s'écriait en soupirant « Ah, Grenade !» Les Abincérages, surtout, conservaient le plus tendre, le plus fidèle souvenir de la patrie. Ils avaient quitté, avec un mortel regret, le théâtre de leur gloire et les bords qu'ils firent si souvent retentir de ce cri d'armes « Honneur et amour !» Ne pouvant plus lever la lance dans les déserts, ni se couvrir du casque dans une colonie de laboureurs, ils s'étaient consacrés à l'étude des simples, profession estimée chez les Arabes à l'égal du métier des armes. Ainsi, cette race de guerriers, qui jadis faisait des blessures, s'occupait maintenant de l'art de les guérir. En cela, elle avait retenu quelque chose de son premier génie, car les chevaliers pansaient souvent eux-mêmes les plaies de l'ennemi qu'ils avaient abattu. La cabane de cette famille qui jadis eut des palais n'était point placée dans le hameau des autres exilés au pied de la montagne du Mamelif. Elle était bâtie parmi les débris même de Carthage, au bord de la mer, dans l'endroit où Saint-Louis mourut sur la cendre et où l'on voit aujourd'hui un ermitage mahométan. Aux murailles de la cabane étaient attachés des boucliers de peau de lion, qui portait empreinte sur un champ d'azur deux figures de sauvages brisant une ville avec une massue. Autour de cette devise, on lisait ces mots « C'est peu de choses », armes et devises des Abincérages. Des lances ornées de pennons blancs et bleus, des alburnos, des casaques de satin tailladés, étaient rangés auprès des boucliers et brillaient au milieu des cimeterres et des poignards. On voyait encore, suspendus, çà et là, des gantelets, des mors enrichis de pierreries, de larges étriers d'argent, de longues épées dont le fourreau avait été brodé par les mains des princesses, et des éperons d'or, que les iseutes, les genièvres, les orianes ne chaussèrent jadis à de vaillants chevaliers. Sur des tables, au pied de ces trophées de la gloire, étaient posés des trophées d'une vie pacifique. C'étaient des plantes cueillies sur les sommets de l'Atlas et dans le désert de Zahara. Plusieurs même avaient été apportées de la plaine de Grenade. Les unes étaient propres à soulager les maux du corps, les autres devaient étendre leur pouvoir jusque sur les chagrins de l'âme. Les Abincérages estimaient surtout celles qui servaient à calmer les vains regrets, à dissiper les folles illusions et ces espérances de bonheur, toujours naissantes mais toujours déçues. Malheureusement, ces simples avaient des vertus opposées et souvent le parfum d'une fleur de la patrie était comme une espèce de poison pour les illustres bannis. 24 ans s'était écoulé depuis la prise de Grenade. Dans ce court espace de temps, 14 abincérages avaient péri par l'influence d'un nouveau climat, par les accidents d'une vie errante et surtout par le chagrin qui mine sourdement les forces de l'homme. Un seul rejeton était l'espoir de cette maison fameuse. Aben Hamet portait le nom de cet abincérage qui fut accusé par les Aigris d'avoir séduit la sultane Fahima. Il réunissait en lui la beauté, la valeur, la courtoisie, la générosité de ses ancêtres, avec ce doux éclat et cette légère impression de tristesse que donne le malheur noblement supporté. Il n'avait que 22 ans lorsqu'il perdit son père. Il résolut alors de faire un pèlerinage au pays de ses aïeux, afin de satisfaire aux besoins de son cœur et d'accomplir un dessein qu'il cacha soigneusement à sa mère. Il s'embarqua à l'échelle de Tunis. Un vent favorable le conduit à Carthagène, il descend du navire et prend aussitôt la route de Grenade. Il s'annonçait comme un médecin arabe qui venait herboriser parmi les rochers de la Sierra Nevada. Une mule paisible le portait lentement dans le pays où les abincérages volaient jadis sur de belliqueux coursiers. Un guide marchait en avant, conduisant 2 autres mules ornées de sonnettes et de touffes de laine de diverses couleurs. Aben Hamet traversa les grandes bruyères et les bois de palmiers du royaume de Murcie. À la vieillesse de ces palmiers, il jugea qu'ils devaient avoir été plantés par ses pères, et son cœur fut pénétré de regrets. Là s'élevait une tour où veillait la sentinelle au temps de la guerre des Maures et des Chrétiens. Ici se montrait une ruine dont l'architecture annonçait une origine mauresque, autre sujet de douleur pour l'abincérage. Il descendait de sa mule et, sous prétexte de chercher des plantes, il se cachait un moment dans ses débris pour donner un libre cours à ses larmes. Il reprenait ensuite sa route en rêvant au bruit des sonnettes de la caravane et au chant monotone de son guide. Celui-ci n'interrompait sa longue romance que pour encourager ses mules en leur donnant le nom de belles et de valeureuses ou pour les gourmander en les appelant paresseuses et obstinées. Des troupeaux de moutons qu'un berger conduisait comme une armée dans des plaines jaunes et incultes, quelques voyageurs solitaires, loin de répandre la vie sur le chemin, ne servaient qu'à le faire paraître un peu plus triste et plus désert. Ces voyageurs portaient tous une épée à la ceinture. Ils étaient enveloppés dans un manteau et un large chapeau rabattu leur couvrait à 2000 visages. Ils saluaient en passant Aben Hamet, qui ne distinguait dans ce noble salut que le nom de Dieu, de Seigneur et de Chevalier. Ce soir, à la Venta, l'abincérage prenait sa place au milieu des étrangers, sans être importuné de leur curiosité indiscrète. On ne lui parlait point, on ne le questionnait point. Son turban, sa robe, ses armes n'excitaient aucun mouvement. Puisque Allah avait voulu que les morts d'Espagne perdissent leur belle patrie, Aben Hamet ne pouvait s'empêcher d'en estimer les graves conquérants. Et des émotions encore plus vives attendaient l'abincérage au terme de sa course. Grenade est bâtie au pied de la Sierra Nevada sur 2 hautes collines que sépare une profonde vallée. Les maisons placées sur la pente des coteaux, dans l'enfoncement de la vallée, donnent à la ville l'air et la forme d'une grenade ouverte, d'où lui est venu son nom. 2 rivières, le Genil et le Douro, dont l'une roule des paillettes d'or et l'autre des sables d'argent, lavent le pied des collines, se réunissent et serpentent ensuite au milieu d'une plaine charmante appelée la Vega. Cette plaine que domine Grenade est couverte de vignes, de grenadiers, de figuiers, de mûriers, d'orangers. Elle est entourée par des montagnes d'une forme et d'une couleur admirables. Un ciel enchanté, un air pur et délicieux, porte dans l'âme une langueur secrète dont le voyageur qui ne fait que passer a même de la peine à se défendre. On sent que dans ce pays, les tendres passions auraient promptement étouffé les passions héroïques si l'amour, pour être véritable, n'avait pas toujours besoin d'être accompagné de la gloire. Lorsque Aben Hamet découvrit le fait des premiers édifices de Grenade, le cœur lui battit avec tant de violence qu'il fut obligé d'arrêter sa mule. Il croisa les bras sur sa poitrine et les yeux attachés sur la ville sacrée, il resta muet et immobile. Le guide s'arrêta à son tour, et comme tous les sentiments élevés sont aisément compris dans l'espagnol, il parut touché et devina que le Maure revoyait son ancienne patrie. L'abbé-sérage rompit enfin le silence. « Guide, s'écria-t-il, sois heureux. Ne me cache point la vérité, car le calme régnait dans les flots le jour de ta naissance, et la lune entrait dans son croissant. Quelles sont ces tours qui brillent comme des étoiles au-dessus d'une verte forêt ?»« C'est l'Alhambra, répond le guide. « Et cet autre château sur cette autre colline ?» dit Aben Hamet. C'est le généralife, expliqua l'Espagnol. Il y a dans ce château un jardin planté de myrte, là où l'on prétend qu'Abencerrage fut surpris avec la sultane Alfaïma. Plus loin, vous voyez l'Albaïcine, et plus près de nous, les tours vermeilles. Chaque mot du guide perçait le cœur d'Aben Hamet. Qu'il est cruel d'avoir recours à des étrangers pour apprendre à connaître les monuments de ses pères et de se faire raconter par des indifférents l'histoire de sa famille et de ses amis. Le guide, mettant fin aux réflexions d'Aben Hamet, s'écria « Marchons, Seigneur Maure, marchons, Dieu l'a voulu. Prenez courage. François Ier n'est-il pas aujourd'hui même prisonnier dans notre Madrid ? Dieu l'a voulu. » Il ôta son chapeau, fit un grand signe de croix et frappa ses mules. L'abbé-sérage, pressant la sienne à son tour, s'écria « C'était écrit !» Et ils descendirent vers Grenade. Ils passèrent près du gros frêne célèbre par le combat de Moussa et du grand maître de Calatrava sous le dernier roi de Grenade. Ils firent le tour de la promenade d'Alameida et pénétrèrent dans la cité par la porte d'Elvire. Ils remontèrent le Alhambra et arrivèrent bientôt sur une place qu'environnaient de toutes parts des maisons d'architecture mauresques. Un camp était ouvert sur cette place pour les Maures d'Afrique que le commerce de soie de la Vega attirait en foule à Grenade. Ce fut là que le guide conduit Aben Hamet. L'abbé-sérage était trop agité pour goûter un peu de repos dans sa nouvelle demeure. La patrie le tourmentait. Ne pouvant résister aux sentiments qui troublaient son cœur, il sortit au milieu de la nuit pour errer dans les rues de Grenade. Il essayait de reconnaître avec ses yeux ou ses mains quelques-uns des monuments que les vieillards lui avaient si souvent décrits. Peut-être que ce haut édifice dont il entrevoyait les murs à travers les ténèbres était autrefois la demeure des Abencerrages. Peut-être était-ce sur cette place solitaire que se donnaient ces fêtes qui portèrent la gloire de Grenade jusqu'aux nues. Là passaient les quadrilles superbement vêtues de brocart. Là s'avançaient les galères chargées d'armes et de fleurs, les dragons qui lançaient des feux et qui recelaient dans leurs flancs d'illustres guerriers, ingénieuses inventions du plaisir et de la galanterie. Mais, hélas, au lieu du son des alafins, du bruit des trompettes et des chants d'amour, un silence profond régnait autour d'Aben Hamet. Cette ville muette avait changé d'habitant et les vainqueurs reposaient sur la couche des vaincus. Ils dorment donc, ces fiers Espagnols, s'écriait le jeune mort indigné, sous ces toits dont ils ont exilé mes aïeux. Et moi, à ma serrage, je veille inconnu, solitaire, délaissé, à la porte du palais de mes pères. Aben Hamet réfléchissait alors sur les destinées humaines, sur les vicissitudes de la fortune, sur la chute des empires, sur cette grenade enfin, surprise par ses ennemis au milieu des plaisirs, échangeant tout à coup ses guirlandes de fleurs contre des chênes. Il lui semblait voir ses citoyens abandonnant leur foyer en habit de fête, comme des convives qui, dans le désordre de leur parure, sont tout à coup chassés de la salle du festin par un incendie. Toutes ces images, toutes ces pensées se pressaient dans l'âme d'Aben Hamet. Plein de douleur et de regrets, il songeait surtout à exécuter le projet qu'il avait amené à Grenade, et le jour le surprit. La main serrage s'était égarée. Il se trouvait loin du camp, dans un faubourg écarté de la ville. Tout dormait, aucun bruit ne troublait le silence des rues. Les portes et les fenêtres des maisons étaient fermées. Seulement la voix du coq proclamait dans l'habitation du pauvre le retour des peines et des travaux. Après avoir erré longtemps sans pouvoir retrouver sa route, Aben Hamet entendit une porte s'ouvrir. Il vit sortir une jeune femme, vêtue à peu près comme ces reines gothiques sculptées sur les monuments de nos anciennes abbayes. Son corset noir, garni de jais, serrait sa taille élégante. Son jupon court, étroit et sans plis, découvrait une jambe fine et un pied charmant. Une mantille, également noire, était jetée sur sa tête. Elle tenait avec sa main gauche cette mantille croisée et fermée, comme une guimpe au-dessus de son menton, de sorte que l'on apercevait de tout son visage que ses grands yeux et sa bouche de rose. Une duègne accompagnait ses pas. Un page portait devant elle un livre d'église. De Varlet, paré de ses couleurs, suivait à quelque distance la belle inconnue. Elle se rendait à la prière matinale que les tintements d'une cloche annonçaient dans un monastère voisin. Aben Hamet crut voir l'ange Israfil ou la plus jeune des houris. L'Espagnole, non moins surprise, regardait là-bas ses rages, dont le turban, la robe et les armes embellissaient encore la noble figure. Revenue de son premier étonnement, elle fit signe à l'étranger de s'approcher, avec une grâce et une liberté particulière aux femmes de ce pays. « Seigneur mort, lui dit-elle, vous paraissez nouvellement arrivé à Grenade, vous seriez-vous égaré ?»« Sultane des fleurs, répondit Aben Hamet, délice des yeux des hommes, ô esclave chrétienne, plus belle que les vierges de la Géorgie, tu l'as deviné. Je suis étranger dans cette ville, perdu au milieu de ces palais, je n'ai pu retrouver le camp des Maures. Que Mahomet touche ton cœur et récompense ton hospitalité. Les Maures sont renommés pour leur galanterie, reprit l'Espagnol avec le plus doux sourire, mais je ne suis ni sultane des fleurs, ni esclave, ni contente d'être recommandée à Mahomet. Suivez-moi, seigneur chevalier, je vais vous conduire au camp des Maures. Elle marcha légèrement devant la bain serrage, le mena jusqu'à la porte du camp, Le lui montra de la main, passa derrière un palais et disparut. À quoi donc tient le repos de la vie? La patrie n'occupe plus seule et tout entière l'âme d'Amenhamet. Grenade a cessé d'être pour lui déserte, abandonnée, veuve, solitaire. Elle est plus chère que jamais à son cœur, mais c'est un prestige nouveau qui embellit ses ruines. Au souvenir des aïeux se mêle à présent un autre charme. Abenhamet a découvert le cimetière où reposent les cendres des Abencerrages. Mais en priant, mais en se prosternant, mais en versant des larmes filiales, il songe que la jeune Espagnole a passé quelquefois sur ses tombeaux, et il ne trouve plus ses ancêtres si malheureux. C'est en vain qu'il ne veut s'occuper que de son pèlerinage au pays de ses pères. C'est en vain qu'il parcourt les coteaux du Douro et du Chenil pour y recueillir des plantes au lever de l'aurore. La fleur qu'il cherche maintenant, c'est la belle chrétienne. Que d'inutiles efforts il a déjà tenté pour retrouver le palais de son enchanteresse. Que de fois il a essayé de repasser par les chemins que lui fit parcourir son divin guide. Que de fois il a cru reconnaître le son de cette cloche, le chant de ce coq qu'il entendit près de la demeure de l'Espagnol. Et trompé par des bruits pareils, il court aussitôt de ce côté, et le palais magique ne s'offre point à ses regards. Souvent encore, le vêtement uniforme des femmes de Grenade lui donnait un moment d'espoir. De loin, toutes les chrétiennes ressemblaient à la maîtresse de son cœur. De près, pas une n'avait sa beauté ou sa grâce. Abenhamet avait enfin parcouru les églises pour découvrir l'étrangère. Il avait même pénétré jusqu'à la tombe de Ferdinand et d'Isabelle, mais c'était aussi le plus grand sacrifice qu'il eût fait jusqu'alors à l'amour. Un jour, il herborisait dans la vallée du Douro. Le coteau du Midi soulevait sur sa pente fleurie les murailles de l'Alhambra et les jardins du Généralif. La colline du Nord était décorée par l'Albazine, par de brillants vergers et par des grottes qu'habitait un peuple nombreux. À l'extrémité occidentale de la vallée, on découvrait les clochers de Grenade qui s'élevaient en groupe du milieu des chênes verts et des cyprès. À l'autre extrémité, vers l'Orient, l'œil rencontrait sur des pointes de rochers, des couvents, des ermitages, quelques ruines de l'ancienne île Libérie et dans le lointain, les sommets de la Sierra Nevada. Le Douro roulait au milieu du vallon et présentait le long de son cours de frais moulins, de bruyantes cascades, les arches brisées d'un aqueduc romain et les restes d'un pont du temps des Maures. Abenhamet n'était plus ni à ses infortunés, ni à ses heureux pour bien goûter le charme de la solitude. Il parcourait avec distraction et indifférence ses bords enchantés. En marchant à l'aventure, il suivit une allée d'arbres qui circulait sur la pente du coteau de l'Albaïcine. Une maison de campagne, environnée d'un bocage, s'offrit bientôt à ses yeux. En approchant du bocage, il entendit les sons d'une voix et d'une guitare. Entre la voix, les traits et les regards d'une femme, il y a des rapports qui ne trompent jamais un homme que l'amour possède. « Oh, c'est Mamouri !» dit Abenhamet, et il écoute, le cœur palpitant. Au nom des Abencerrages plusieurs fois répétés, son cœur bat encore plus vite. L'inconnue chantait une romance castillane qui retraçait l'histoire des Abencerrages et des Aigris. Abenhamet ne peut plus résister à son émotion. Il s'élance à travers une haie de myrte et tombe au milieu d'une troupe de jeunes femmes, effrayées, qui fuient en poussant des cris. L'Espagnol qui venait de chanter et qui tenait encore la guitare s'écrie « Oh, c'est le Seigneur mort !» Et elle rappelle ses compagnes. « Favorite des génies, dit l'Abencerrage, je te cherchais comme l'Arabe cherche une source dans l'ardeur du midi. J'ai entendu les sons de ta guitare, tu célébrais les héros de mon pays. Je t'ai deviné à la beauté de tes accents, et j'apporte à tes pieds le cœur d'Aben Hammet. » Et moi, répondit Donna Bianca, c'était en pensant à vous que je relisais la romance des Abencerrages. Depuis que je vous ai vu, je me suis figuré que ces chevaliers morts vous ressemblaient. Une légère rougeur monta au front de Bianca en prononçant ces mots. Aben Hammet se sentit prêt à tomber aux genoux de la jeune chrétienne, à lui déclarer qu'il était le dernier Abencerrage, mais un reste de prudence le retint. Il craignit que son nom, trop fameux à Grenade, ne donnât des inquiétudes au gouverneur. La guerre des Morisques était à peine terminée, et la présence d'un Abencerrage dans ce moment pouvait inspirer aux Espagnols des justes craintes. Ce n'est pas qu'Aben Hammet s'effraya d'aucun péril, mais il frémissait à la pensée d'être obligé de s'éloigner pour jamais de la fille de Don Rodrigue. Donna Bianca descendait d'une famille qui tirait son origine du Cid de Bivar et de Chimène, fille du comte Gomez de Gormaz. La postérité du vainqueur de Valence, la belle tomba par l'ingratitude de la cour de Castille dans une extrême pauvreté, et on crut même pendant plusieurs siècles qu'elle s'était éteinte tant elle devint obscure. Mais vers le temps de la conquête de Grenade, un dernier rejeton de la race des Bivars, l'aïeul Bianca, se fit reconnaître moins encore à ses titres qu'à l'éclat de sa valeur. Après l'expulsion des infidèles, Ferdinand donna aux descendants du Cid les biens de plusieurs familles maures et le créa duc de Santa Fe. Le nouveau duc fixa sa demeure à Grenade et mourut jeune encore, laissant un fils unique déjà marié, Don Rodrigue, père de Bianca. Donna Teresa de Crérès, femme de Don Rodrigue, mit au jour un fils qui reçut à sa naissance le nom de Rodrigue, comme tous ses aïeux, mais que l'on appela Don Carlos pour le distinguer de son père. Les grands événements que Don Carlos eut sous ses yeux dès sa plus tendre jeunesse, les périls auxquels il fut exposé presque au sortir de l'enfance, ne firent que rendre plus grave et plus rigide un caractère naturellement porté à l'austérité. Don Carlos comptait à peine 14 ans lorsqu'il suivit Cortés au Mexique. Il avait supporté tous les dangers, il avait été témoin de toutes les horreurs de cette étonnante aventure. Il avait assisté à la chute du dernier roi d'un monde jusqu'alors inconnu. 3 ans après cette catastrophe, Don Carlos s'était trouvé en Europe à la bataille de Pavie, comme pour voir l'honneur et la vaillance couronnés et succomber sous les coups de la fortune. L'aspect d'un nouvel univers, de longs voyages sur les mers non encore parcourus, le spectacle des révolutions et des vicissitudes du sort avait fortement ébranlé l'imagination religieuse et mélancolique de Don Carlos. Il était entré dans l'ordre chevaleresque de Calatrava et, renonçant au mariage malgré les prières de Don Rodrigue, il destinait tous ses biens à sa sœur. Bianca de Bivar, seule unique de Don Carlos et beaucoup plus jeune que lui, était l'idole de son père. Elle avait perdu sa mère et elle est entrée dans sa 18e année lorsque Aben Hammet parut à Grenade. Tout était séduction dans cette femme enchanteresse. Sa voix était ravissante, sa danse plus légère que le zéphyr. Tantôt elle se plaisait à guider un char comme Armide, tantôt elle volait sur le dos du plus rapide coursier d'Andalousie, comme ces fées charmantes qui apparaissaient à Tristan et à Gaillard dans les forêts. Athènes l'eût prise pour Aspasie et Paris pour Diane de Poitiers, qui commençait à briller à la cour. Mais avec les charmes d'une Française, elle avait les passions d'une Espagnole, et sa coquetterie naturelle n'ôtait rien à la sûreté, à la constance, à la force, à l'élévation des sentiments de son cœur. Au cri qu'avaient poussé les jeunes Espagnols lorsque Abenhamet s'était élancé dans le bocage, Don Rodrigue était accouru. « Mon père, dit Bianca, voilà le seigneur mort dont je vous ai parlé. Il m'a entendu chanter, il m'a reconnu. Il est entré dans le jardin pour me remercier de lui avoir enseigné sa route. » Le duc de Santa Fe reçut l'abincérage avec la politesse grave et pourtant naïve des Espagnols. On ne remarque chez cette nation aucun de ces airs serviles, aucun de ces tours de phrases qui annoncent l'abjection des pensées et la dégradation de l'âme. La langue du grand seigneur et du paysan est la même, le salut le même, les compliments, les habitudes et les usages sont les mêmes. Autant la confiance et la générosité de ce peuple envers les étrangers sont sans bornes, autant sa vengeance est terrible quand on le trahit. D'un courage héroïque, d'une patience à toute épreuve, incapable de céder à la mauvaise fortune, il faut qu'il la dompe ou qu'il en soit écrasé. Il a peur de ce qu'on appelle esprit, mais les passions exaltées lui tiennent lieu de cette lumière qui vient de la finesse et de l'abondance des idées. Un Espagnol qui passe le jour sans parler, qui n'a rien vu, qui ne se soucie de rien voir, qui n'a rien lu, rien étudié, rien comparé, trouvera dans la grandeur de ses résolutions les ressources nécessaires au moment de l'adversité. C'était le jour de la naissance de Don Rodrigue, et Bianca donnait à son père une tertulia, ou petite fête, dans cette charmante colline. Le duc de Santa Fe invita Abenhamet à s'asseoir au milieu des jeunes femmes qui s'amusaient du turban et de la robe de l'étranger. On apporta des carreaux de velours et l'abincérage se reposa sur ces carreaux à la façon des Maures. On lui fit des questions sur son pays et sur ses aventures. Il y répondit avec esprit et gaieté. Il parlait le castillan le plus pur, on aurait pu le prendre pour un espagnol, s'il n'eût presque de jour dit « toi » au lieu de « vous ». Ce mot avait quelque chose de si doux dans sa bouche que Bianca ne pouvait se défendre d'un secret dépit lorsqu'il s'adressait à l'une de ses compagnes. De nombreux serviteurs parurent, ils portaient le chocolat, les pâtes de fruits et les petits pains de sucre de Malaga, blanc comme la neige, poreux et léger comme des éponges. Après le refresco, on pria à Blanca d'exécuter une de ses danses de caractère où elle surpassait les plus habiles ritanas. Elle fut obligée de céder aux vœux de ses amis. Abenhamet avait gardé le silence, mais ses regards suppliants parlaient au défaut de sa bouche. Bianca choisit une zambra, danse expressive que les Espagnols ont empruntée des Maures. Une des jeunes femmes commença à jouer sur la guitare l'air de la danse étrangère. La fille de Don Rodrigue ôte son voile et attache à ses mains blanches des castagnettes de bois d'ébène. Ses cheveux noirs tombent en boucle sur son cou d'albâtre. Sa bouche et ses yeux sourient de conserve. Son teint est animé par le mouvement de son cœur. Tout à coup, elle fait retentir le bruyant ébène, frappe trois fois la mesure, entonne le chant de la zambra, et mêlant sa voix au son de la guitare, elle part comme un éclair. Oh, quelle variété dans ses pas, quelle élégance dans ses attitudes! Tantôt elle lève ses bras avec vivacité, tantôt elle les laisse retomber avec mollesse. Quelquefois elle s'élance comme enivrée de plaisir et se retire comme accablée de douleur. Elle tourne la tête, semble appeler quelqu'un d'invisible, tend modestement une joue vermeille au baiser d'un nouvel époux, fuit honteuse, revient brillante et consolée, marche d'un pas noble et presque guerrier, puis voltige de nouveau sur le gazon. L'harmonie de ses pas, de ses chants et des sons de sa guitare était parfaite. La voix de Bianca, légèrement voilée, avait cette sorte d'accent qui remue les passions jusqu'au fond de l'âme. La musique espagnole, composée de soupirs et de mouvements vifs, de refrains tristes, de chants subitement arrêtés, offre un singulier mélange de gaieté et de mélancolie. Cette musique et cette danse fixèrent sans doute le destin du dernier rabbin Serrage. Elles auraient suffi pour troubler un cœur moins malade que le sien. On retourna le soir à Grenade par la vallée du Douro. Don Rodrigue, charmé des manières nobles et polies d'Aben Hamet, ne voulut point se séparer de lui, qu'il ne lui eût promis de venir souvent amuser Blanca des merveilleux récits de l'Orient. Le Maure, au comble de ses vœux, accepta l'invitation du duc de Santa Fe, et dès le lendemain, il se rendit au palais où respirait celle qu'il aimait plus que la lumière du jour. Blanca se trouva bientôt engagée dans une passion profonde, par l'impossibilité même où elle crut être d'éprouver jamais cette passion. Aimer un infidèle, un Maure, un inconnu, lui paraissait une chose si étrange qu'elle ne prit aucune précaution contre le mal qui commençait à se glisser dans ses veines. Mais aussitôt qu'elle a reconnu les atteintes, elle accepta ce mal en véritable espagnole. Les périls et les chagrins qu'elle prévit ne la firent point reculer au bord de l'abîme, ni délibérer longtemps avec son cœur. Elle se dit qu'Aben Hamet soit chrétien, qu'il m'aime, et je le suis au bout de la terre. L'Aben Serrage ressentait de son côté toute la puissance d'une passion irrésistible. Il ne vivait plus que pour Blanca, il ne s'occupait plus des projets qu'il avait amenés à Grenade. Il lui était facile d'obtenir des éclaircissements qu'il était venu chercher, mais tout autre intérêt que celui de son amour s'était évanoui à ses yeux. Il redoutait même des lumières qui auraient pu apporter des changements dans sa vie. Il ne demandait rien, il ne voulait rien connaître. Il se disait que Blanca soit musulmane, qu'elle m'aime, et je la sers jusqu'à mon dernier soupir. Aben Hamet et Blanca, ainsi fixés dans leur résolution, n'attendaient que le moment de se découvrir leurs sentiments. On était alors dans les plus beaux jours de l'année. « Vous n'avez point encore vu l'Alhambra, » dit la fille du duc de Santa Fe à la main Serrage. « Si j'en crois quelques paroles qui vous sont échappées, votre famille est originaire de Grenade. Peut-être serez-vous bien aise de visiter le palais de vos anciens rois. Je veux moi-même ce soir vous servir de guide. » Aben Hamet jura par le prophète que jamais promenade ne pouvait lui être plus agréable. L'heure fixée pour le pèlerinage de l'Alhambra étant arrivée, la fille de Don Rodrigue monta sur une hackenée blanche, accoutumée à gravir les rochers comme un chevreuil. Aben Hamet accompagnait la brillante espagnole sur un cheval andalou équipé à la manière des Turcs. Dans la course rapide du jeune Maure, sa robe de pourpre s'enflait derrière lui, son sabre recourbé retentissait sur la selle élevée, et le vent agitait les grettes dont son turban était surmonté. Le peuple, charmé de sa bonne grâce, disait en le regardant passer « C'est un prince infidèle que Dona Blanca va convertir. » Ils suivirent d'abord une longue rue qui portait encore le nom d'une illustre famille Maure. Cette rue aboutissait à l'enceinte extérieure de l'Alhambra. Ils traversèrent ensuite un bois d'ormeaux, arrivèrent à une fontaine et se trouvèrent bientôt devant l'enceinte intérieure du palais de Boabdil. Dans une muraille flanquée de tours et surmontée de créneaux, s'ouvrait une porte appelée la porte du jugement. Ils franchirent cette première porte et s'avancèrent par un chemin étroit qui serpentait entre de hauts murs et des masures à demi ruinées. Ce chemin les conduisit à la place des Algibes, près de laquelle Charles Quint faisait alors élever un palais. De là, tournant vers le nord, ils s'arrêtèrent dans une cour déserte, au pied d'un mur sans ornement et dégradé par les âges. Abenhamet, sautant légèrement à terre, offrit la main à Blanca pour descendre de sa mule. Les serviteurs frappèrent à une porte abandonnée dont l'herbe cachait le seuil. La porte s'ouvrit et laissa voir tout à coup les réduits secrets de l'Alhambra. Tous les charmes, tous les regrets de la patrie mêlés au prestige de l'amour saisirent le cœur du dernier Abencerrage. Immobile et muet, il plongeait les regards étonnés dans cette habitation des génies. Il croyait être transporté à l'entrée d'un de ces palais dont on lit la description dans les contes arabes. De légères galeries, des canaux de marbre blanc bordés de citronniers et d'orangers en fleurs, des fontaines, des cours solitaires, s'offraient de toutes parts aux yeux d'Abenhamet, et à travers les voûtes allongées des portiques, il apercevait d'autres labyrinthes et de nouveaux enchantements. L'azur du plus beau ciel se montrait entre des colonnes qui soutenaient une chaîne d'arceaux gothiques. Les murs chargés d'arabesques imitaient à la vue ces étoffes de l'Orient que brode dans l'ennui du harem le caprice d'une femme esclave. Quelque chose de voluptueux, de religieux et de guerrier semblait respirer dans ce magique édifice, espèce de cloître de l'amour, retraite mystérieuse où les rois maures goûtaient tous les plaisirs et oubliaient tous les devoirs de la vie. Après quelques instants de surprise et de silence, les deux amants entrèrent dans ce séjour de la puissance évanouie et des félicités passées. Ils firent d'abord le tour de la salle des Messoukars, au milieu du parfum des fleurs et de la fraîcheur des eaux. Ils pénétrèrent ensuite dans la cour des lions. L'émotion d'Abenhamet augmentait à chaque pas. « Si tu ne remplissais mon âme de délices, dit-il à Blanca, avec quel chagrin me verrais-je obligé de te demander, à toi, Espagnol, l'histoire de ces demeures? Ah, ces lieux sont faits pour servir de retraite au bonheur. Et moi ?» Abenhamet aperçut le nom de Boabdil enchâssé dans des mosaïques. « Oh, mon roi, s'écria-t-il, qu'es-tu devenu? Où te trouverais-je dans ton Alhambra désert ?» Et les larmes de la fidélité, de la loyauté et de l'honneur couvraient les yeux du jeune Maure. « Vos anciens maîtres, dit Blanca, ou plutôt les rois de vos pères, étaient des ingrats. Qu'importe, repartit l'Abencerrage. Ils ont été malheureux. Comme il prononçait ces mots, Blanca le conduisit dans un cabinet qui semblait être le sanctuaire même du temple de l'amour. Rien n'égalait l'élégance de cet asile. La voûte entière, peinte d'azur et d'or et composée d'arabesques découpées à jour, laissait passer la lumière comme à travers un tissu de fleurs. Une fontaine jaillissait au milieu de l'édifice, et ses eaux, retombant en rosée, étaient recueillies dans une conque d'albâtre. « Aben Hamet, dit la fille du duc de Santa Fe, regardez bien cette fontaine. Elle reçut les têtes défigurées de l'abincérage. Vous voyez encore, sur le marbre, la tache du sang des infortunés que Boabdil sacrifia à ses soupçons. C'est ainsi qu'on traite dans votre pays les hommes qui séduisent les femmes crédules. » Aben Hamet n'écoutait plus Bianca. Il s'était prosterné et baisait avec respect la trace du sang de ses ancêtres. Il se relève et s'écrie « Ô Blanca, je jure par le sang de ces chevaliers de t'aimer avec la constance, la fidélité et l'ardeur d'un abincérage. » « Vous m'aimez donc ?» repartit Blanca en joignant ses deux belles mains et levant ses regards au ciel. « Mais songez-vous que vous êtes un infidèle, un maure, un ennemi, et que je suis chrétienne et espagnole ?»« Oh, saint prophète, dit Aben Hamet, soyez témoin de mes serments. » Blanca l'interrompant. « Mais quelle foi voulez-vous que j'ajoute au serment d'un persécuteur de mon Dieu ? Mais savez-vous si je vous aime ? Qui vous a donné l'assurance de me tenir un pareil langage ?» Aben Hamet, consterné, répondit « Il est vrai, je ne suis que ton esclave. Tu ne m'as pas choisi pour ton chevalier. » « Maure, dit Blanca, laisse là ta ruse. Tu as vu dans mes regards que je t'aimais. Ma folie pour toi passe toute mesure. Sois chrétien, et rien ne pourra m'empêcher d'être à toi. Mais si la fille du duc de Santa Fe ose te parler avec cette franchise, tu peux juger par cela même qu'elle saura se vaincre et que jamais un ennemi des chrétiens n'aura aucun droit sur elle. » Aben Hamet, dans un transport de passion, saisit les mains de Blanca, les posa sur son turban et ensuite sur son cœur. « Allah est puissant » s'écria-t-il, « et Aben Hamet est heureux. Ô Mahomet, que cette chrétienne ne connaisse ta loi, et rien ne pourra... » « Oh, tu me blasphèmes, dit Blanca, sortons d'ici. » Elle s'appuya sur le bras du maure et s'approcha de la fontaine des 12 lions qui donne son nom à l'une des cours de l'Alhambra. « Étranger, dit la naïve espagnole, quand je regarde ta robe, ton turban, tes armes, et que je songe à nos amours, je crois voir l'ombre du bel abincérage se promenant dans cette retraite abandonnée avec l'infortuné Alfaïma. Explique-moi l'inscription arabe gravée sur le marbre de cette fontaine. » Aben Hamet lut ces mots. Cette inscription existe avec quelques autres. Il est inutile de répéter que j'ai fait cette description de l'Alhambra sur les lieux mêmes. La belle princesse qui se promène couverte de perles dans son jardin en augmente si prodigieusement la beauté. Le reste de l'inscription était effacé. Mais c'est pour toi qu'elle a été faite, cette inscription, dit Aben Hamet. « Sultan aimé, Ces palais n'ont jamais été aussi beaux dans leur jeunesse qu'ils le sont aujourd'hui dans leurs ruines. Écoute le bruit des fontaines dont la mousse a détourné les eaux. Regarde les jardins qui se montrent à travers ces arcades à demi tombées. Contemple l'astre du jour qui se couche par-delà tous ces portiques. Oh, qu'il est doux d'errer avec toi dans ces lieux. Tes paroles embaument ces retraites comme les roses de l'hymen. Avec quel charme je reconnais dans ton langage quelques accents de la langue de mes pères. Le seul frémissement de ta robe sur ces marbres me fait tressaillir. L'air n'est parfumé que parce qu'il a touché ta chevelure. Tu es belle comme le génie de ma patrie au milieu de ses débris. Mais, Aben Ahmet, peut-il espérer de fixer ton cœur? Qu'est-il auprès de toi? Il a parcouru les montagnes avec son père. Il connaît les plantes du désert. Hélas, il n'en est pas une seule qui pût le guérir de la blessure que tu lui as faite. Il porte des armes, mais il n'est point chevalier. Je me disais autrefois, l'eau de la mer qui dort, à l'abri dans le creux du rocher, est tranquille et muette, tandis que tout auprès, la grande mer est agitée et bruyante. Aben Ahmet, ainsi sera ta vie, silencieux, paisible, ignoré dans un coin de terre inconnue, tandis que la cour du sultan est bouleversée par les orages. Je me disais cela, jeune chrétienne, et tu m'as prouvé que la tempête peut aussi troubler la goutte d'eau dans le creux du rocher. Blanca écoutait avec ravissement ce langage nouveau pour elle, et dont le tour oriental semblait si bien convenir à la demeure des fées qu'elle parcourait avec son amant. L'amour pénétrait dans son cœur de toutes parts. Elle sentait chanceler ses genoux. Elle était obligée de s'appuyer plus fortement sur le bras de son guide. Aben Ahmet soutenait le doux fardeau et répétait en marchant « Oh, que ne suis-je un brillant abasserrage !»« Oh, tu me plairais moins, » dit Blanca, « car je serais plus tourmentée, reste obscure et vis pour moi. Souvent, un chevalier célèbre oublie l'amour pour la renommée. » « Oh, tu n'auras pas à se venger, à craindre !» répliqua vivement Aben Ahmet. Et comment m'aimerais-tu donc si tu étais un abincérage ? Dit la descendante de Chimène. « Je t'aimerais, » répondit le mort, « plus que la gloire et moins que l'honneur. » Le soleil était descendu sous l'horizon pendant la promenade des deux amants. Ils avaient parcouru tout l'Alhambra. Quels souvenirs offert la pensée d'Aben Ahmet ? Ici, la sultane recevait par des soupiraux la fumée des parfums qu'on brûlait au-dessous d'elle. Là, dans cet asile écarté, elle se parait de tous les atours de l'Orient. Et c'était Blanca. C'était une femme adorée qui racontait ses détails au beau jeune homme qu'elle idolâtrait. La lune, en se levant, répandit sa clarté douteuse dans les sanctuaires abandonnés et dans les parvis déserts de l'Alhambra. Ses blancs rayons dessinaient sur le gazon des parterres, sur les murs des salles, la dentelle d'une architecture aérienne, les cintres des cloîtres, l'ombre mobile des eaux jaillissantes et celle des arbustes balancés par le zéphyr. Le rossignol chantait dans un cyprès qui perçait les dômes d'une mosquée en ruine, et les échos répétaient ses plaintes. Aben Ahmet écrivit au clair de la lune le nom de Blanca sur le marbre de la salle des deux sœurs. Il traça ce nom en caractères arabes afin que le voyageur eût un mystère de plus à deviner dans ce palais des mystères. Maure, ces lieux sont cruels, dit Blanca. Quittons ces lieux. Le destin de ma vie est fixé pour jamais. Retiens bien ces mots. Musulman, je suis ton amante sans espoir. Et chrétien, je suis ton épouse fortunée. Aben Hamet répondit, chrétienne, je suis ton esclave désolé. Musulmane, oh, je suis ton époux glorieux. Et ces nobles amants sortirent de ce dangereux palais. La passion de Blanca s'augmenta de jour en jour, et celle d'Aben Hamed s'accrut avec la même violence. Il était si enchanté d'être aimé pour lui seul, de ne devoir à aucune cause étrangère les sentiments qu'il inspirait, qu'il ne révéla point le secret de sa naissance à la fille du duc de Santa Fe. Il se faisait un plaisir délicat de lui apprendre qu'il portait un nom illustre le jour même où elle consentirait à lui donner sa main. Mais il fut tout à coup rappelé à Tunis. Sa mère, atteinte d'un mal sans remède, voulait embrasser son fils et le bénir avant d'abandonner la vie. Ben Hamed se présente au palais de Bianca. Sultane, lui dit-il, ma mère va mourir. Elle me demande pour lui fermer les yeux. Me conserveras-tu ton amour? Tu me quittes, répondit Blanca pâlissante. Te reverrai-je jamais? Viens, dit Aben Hamet. Je veux exiger de toi un serment et t'en faire un que la mort seule pourra briser. Suis-moi. Ils sortent. Ils arrivent à un cimetière qui fut jadis celui des Maures. On voyait encore, çà et là, de petites colonnes funèbres autour desquelles le sculpteur figura jadis un turban, mais les chrétiens avaient depuis remplacé ce turban par une croix. Aben Hamet conduisit Blanca au pied de ces colonnes. Bianca, dit-il, mes ancêtres reposent ici. Je jure par leur cendre de t'aimer jusqu'au jour où l'ange du jugement m'appellera au tribunal d'Allah. Je te promets de ne jamais engager mon cœur à une autre femme et de te prendre pour épouse aussitôt que tu connaîtras la sainte lumière du prophète. Chaque année, à cette époque, je reviendrai à Grenade pour voir si tu m'as gardé ta foi et si tu veux renoncer à tes erreurs. Et moi, dit Bianca en larmes, je t'attendrai tous les ans. Je te conserverai jusqu'à mon dernier soupir la foi que je t'ai jurée, et je te recevrai pour époux lorsque le Dieu des chrétiens, plus puissant que ton amante, aura touché ton cœur infidèle. Aben Hamet part. Les vents l'emportent aux bords africains. Sa mère venait d'expirer. Il la pleure. Il embrasse son cercueil. Les mois s'écoulent. Tantôt errant parmi les ruines de Carthage, tantôt assis sur le tombeau de Saint-Louis, l'Aben Serraj exilé appelle le jour qui doit le ramener à Grenade. Ce jour se lève enfin. Aben Hamet monte sur un vaisseau et fait tourner la proie vers Malaga. Avec quel transport, avec quelle joie mêlée de crainte, il aperçut les premiers promontoires de l'Espagne. Blanca l'attend-elle sur ses bords, Se souvient-elle encore d'un pauvre arabe qui ne cessa de l'adorer sous le palmier du désert?